In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Je sais pas si on va y arriver. Hein.
Pourquoi ?
Je sais pas.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
Rien du tout.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, je suis avec mon ami Julien Dupuis et nous allons parler d'un film... qui nous tient un petit peu à cœur quand même, je pense. Mmh.
Un réalisateur qui nous tient à cœur,
qui est Christian Duguay. Mmh. Et nous allons parler de L'Art de la Guerre, un film qui est sorti en 2000 avec Wesley Snipes. Mmh. Alors, L'Art de la Guerre, c'est un peu le gros film de studio de Duguay à l'époque, en tout cas, qui sortait de pas mal de séries B et de films de moyen budget, comme Contrat sur un terroriste. Et là, c'était vraiment, pour lui, la première possibilité de faire un film avec une grosse star de l'action. Et de montrer un peu ses capacités parce que
c'était quand même une production moyenne, c'était pas non plus un très très gros budget, ça a été tourné au Québec je crois hein, d'ailleurs
c'est un budget enfin en tout cas c'est affiché à l'époque à 60 millions alors on sait pas trop
ouais.
C'est Franchise Pictures donc c'est
un peu particulier
on va peut-être en parler un peu après mais c'était une série de films qui se faisait à ce moment-là avec des producteurs qui étaient issus de chez Millennium et
je pense que ça coûtait moins mais ouais. et le truc aussi c'est que c'est un film qui a été fait très très rapidement en fait L'Art de la Guerre. Donc tout ça fait que c'était pas pour reprendre le truc du jeu vidéo, c'était pas un triple A, c'est un jeu vidéo, tu vois, c'est pas non plus la grande classe mais c'est vrai que par contre c'est peut-être son plus gros budget, quoi, Christian Duguay, je sais pas, j'ai pas regardé.
Si on sort éventuellement de ce qu'il a pu faire pour la télé, mais comment ça se fait, quoi.
C'est particulier, la télé, ouais. Donc, Christian Duguay, c'est un réalisateur québécois qui est à la base... Enfin, c'est un personnage assez multiple. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai couru après Christian Duguay pendant assez longtemps. C'était un peu notre marotte. Et Juan Chaffiot, avec qui je faisais un fanzine et avec qui j'ai commencé à travailler dans Starfix Nouvelle Génération. Puis moi, et on a couru après le mec. On a fini par le rencontrer à Cannes.
Et par l'entremise de son producteur.
Par l'entremise de Pierre David, qui était son producteur de ses débuts. Alors, je vais me permettre de d'étayer un tout petit peu ça parce que je pense que ça peut éclairer son œuvre à venir et puis surtout les qualités en fait du personnage. Donc Christian Duguay, un Québécois, c'est un amateur de sport extrême, ce qui est pas anecdotique du tout en fait quand on parle du mec. C'est un mec très 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 physique et c'est à la base un opérateur caméra qui est formé avant tout au Steadicam, donc ce harnais de stabilisateur de caméra, mais aussi un type de grue dont j'ai oublié le nom, qui est une espèce de Luma. Je crois que c'est la Génie ou un truc comme ça. Je crois que c'est une grue qui a un peu disparu aujourd'hui, mais qui en gros est une grue que tu pilotes en fait un peu comme la Luma, donc avec des manivelles et tout, et qui permettait en fait des mouvements de grue assez rapides et puis surtout une mise en place très rapide en fait sur les plateaux. Et Christian Duguay a assez vite monté dans la hiérarchie des productions. Il avait bossé sur une série toute miteuse, peut-être que les gens de notre génération s'en souviennent vaguement, qui s'appelait Guillaume Tell, qui était diffusée sur FR3 à l'époque. Je crois, si mes souvenirs sont bons. Et il avait commencé à réaliser en fait des épisodes là-bas. Et effectivement, il est tombé sous la coupe de Pierre David, qui est donc un producteur haut en couleur québécois, qui avait révélé, enfin en tout cas, qui avait accompagné les débuts de David Cronenberg. Et Christian Duguay s'est mis à réaliser Scanners 2 et 3.
Ça, c'est au début des années 90.
C'est ça, voilà. Et en fait, très vite, il s'est fait un petit nom parce que c'était un mec qui avait une efficacité assez incroyable en fait, sur les plateaux. Il faut savoir que c'est un gars qui est... Parce que nous, avec Sherwan, on essayait en fait, de passer par plein de biais différents pour le choper. Et du coup, on avait des échos en fait, du mec à gauche, à droite. Les échos étaient catastrophiques à chaque fois. Apparemment, les mecs qui bossaient avec lui le détestaient parce que le mec impose un rythme de travail absolument
harassant. Il est dur, hein, c'est quelqu'un de dur.
C'est un mec très, très dur. Et l'intérêt, en fait, le truc avec Christian Duguay, qui est indissociable, à mon avis, de sa mise en scène, c'est que c'est un gars profondément physique, c'est-à-dire qu'il s'implique physiquement sur le tournage de ses films. Et notamment, il est opérateur caméra, du coup, de beaucoup de plans de ses films. Il est lui-même l'opérateur Steadicam et l'opérateur grue de beaucoup, beaucoup de ses films. Et du coup, il a une approche extrêmement viscérale qui se répercute dans ses films. C'est des films à la mise en scène, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Steph, mais il y a des velléités de mise en scène, on va en reparler dans l'art de la guerre, qui sont assez précises. Et en même temps, il y a un truc un peu brut de décoffrage chez Christian Duguay. Il y a un truc où, par exemple, la fin d'un cadre n'est pas tout à fait parfaite. Tu sens que le mouvement n'est pas très beau et pas très bien fini, mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est quelqu'un qui mise avant tout sur l'énergie. Et nous, quand il nous avait parlé de sa mise en scène, Duguay, notamment sur le travail de plan un peu de plan séquence en fait, notamment qu'il faisait au Steadicam, il nous expliquait qu'il avait pas de plan préétabli en fait quand il arrivait sur un plateau, que lui ce qu'il aimait faire c'est se promener avec son Steadicam ou avec son viseur en fait avec les comédiens à l'intérieur d'un décor et sentir de façon un peu viscérale. Je crois qu'il avait il avait sorti une analogie sur une limace, un truc comme ça, c'était un truc un peu bizarre. Il disait c'est comme une grosse limace, puis petit à petit tu sens comment elle se forme à l'intérieur du décor. Enfin, il avait un truc un petit peu,
on sait pas ce qu'il y a de plus énergique, la limace.
Non, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que tu le sens que c'est. Disons qu'il y a il sent une espèce d'énergie, à mon avis, dans ces plateaux. Ça fait un peu concombre à ce que je dis, un petit peu.
Non, mais je pense qu'il joue à l'instinct, quoi.
Voilà. Complètement. Et bon, bref, il a fait ses deux premiers scanners. Il a fait cette explosion immédiate, ce film avec Pierre Brosnan.
Un film avec Pierre Brosnan, un petit film d'action, sympathique. Quoi. Pas évidemment une série B, hein. Surtout en France, et ça parce que ça, c'était sorti, je crois, direct en vidéo en France.
C'est ça, oui, exactement.
Par contre, en France, surtout le film qu'il a un petit peu fait connaître, on va dire, auprès des cinéphiles, c'est Planète Hurlante. Donc, une adaptation assez.
Qui est peut-être un de ses deux, trois meilleurs films.
Vraiment une petite série B, mais vraiment bien foutue pour le budget qu'il avait.
Adapté de Philippe K. Dick.
Voilà. Et après, ensuite, il a fait Contrat sur un terroriste, The Assignment, qui est clairement son meilleur film, sur le terroriste Carlos. Qui est pareil, en fait, une économie de série B, mais vraiment très, très énergique, très, très bien pensée et surtout très, très bien racontée, en fait, finalement,
compliqué à raconter. Et ce qui est intéressant chez Duguay, dès cette époque-là, enfin, même dès Scanners 3, je crois, c'est qu'il y a un truc signature chez lui, c'est qu'il commence toujours ses films avec un plan séquence, en général au Steadicam, mais pas toujours. Et donc, notamment dans Contrat sur un terroriste, c'est un premier plan séquence qui est assez étonnant, quoi, qui a probablement dû très mal vieillir. Moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu The Assignment, mais je pense que ça a très mal vieilli, mais ce n'est pas grave, l'idée, elle est super. Et il y a un autre truc qui est intéressant chez ce mec-là, c'est que très vite, il s'est interrogé aussi sur les technologies numériques. Et mine de rien, dans le courant des années 90, disons à la fin des années 90, début des années 2000, des réalisateurs qui recherchaient à inclure le numérique, les trucages numériques à l'intérieur de leur mise en scène, il n'y en avait pas tant que ça. Lui réfléchissait bien. Et ça allait de choses qui lui permettaient justement de pousser un peu ces plans séquences ou certaines technologies de plans ou le dynamisme de certains plans. Et il y a ça aussi dans l'art de la guerre, je pense. À un moment,
il le pousse un peu plus loin, même
un peu plus loin, ouais. Mais par exemple, il y a ce plan, il y a un travelling avant sur le logo des Nations Unies, en fait, avec qui sont gravés sur une plaque en verre comme ça, et en fait ils ont rajouté un flingue en numérique. Et en fait, le travelling avant...
À la fin, tu veux dire.
Ouais, et le travelling avant, en fait, est synchronisé avec l'explosion
du
verre. Et en fait, avec le flingue numérique, t'as l'impression que c'est le flingue, en fait, en tournant comme ça, qui est en train d'exploser le truc. Du coup, c'est un plan assez joli, c'est assez sympa, quoi.
C'est ce qui est censé se passer dans la séquence. Hein.
C'est le flingue qui fait... Mais disons que le cadre et le dynamisme du plan est permis aussi par le numérique. Et dans Contrat sur un terroriste, il y avait un truc qui était assez neuf à l'époque.
Et d'ailleurs, le plan est assez très efficace.
Tiens la route, c'est clair. Et c'est pas toujours le cas dans les plans.
Non, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, la problématique, je pense, de quelqu'un comme Duguay, c'est qu'il est plus généreux que ses budgets.
Exactement.
Voilà. Et donc, le truc, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, par la force des choses, puisqu'il a essayé des choses qui étaient à l'époque inédites, nous, à l'époque, quand on les a perçues, c'est-à-dire, on s'est dit, putain, le mec, il essaye vraiment quelque chose, c'est super, tu vois.
Complètement.
Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, comme tout est plus ou moins possible et avec un moindre budget, je pense que voilà, ces effets-là, en fait, on voit pas la technicité que ça pouvait avoir à l'époque.
C'est quoi, ça, en fait. Puis surtout l'idée, encore une fois.
Coup, c'est en ça que ça vieillit.
C'est ça, exactement, c'est sûr. Puis il faut se replacer. C'est là où il faut faire un effort quand on voit L'Art de la guerre, mais tous les autres films de Duguay, notamment Via Sigmund, c'est qu'il faut les replacer dans le contexte. Par exemple, dans Via Sigmund, moi je me souviens très bien, c'est parce que c'était MacGuff qui avait fait le plan, qui est une société française. Mais il fallait qu'il tourne une explosion de voiture dans une ruelle à Paris. Et il ne pouvait pas, en fait, parce qu'il voulait une explosion très très forte, en fait, Duguay. Et du coup, ils avaient fait une explosion sur une miniature à part, toute peinte en noir, et ils avaient incrusté les flammes sur une vraie voiture, en fait, qu'ils avaient animée un tout petit peu en 2D, juste en découpant, en fait, la voiture, le capot, etc. Aujourd'hui, si vous vous intéressez un tout petit peu à la technique du cinéma et aux effets spéciaux, c'est assez commun, ce genre de choses et tout. À l'époque, je peux vous assurer que c'était... Tout le monde ne pensait pas à ça. Tous les réalisateurs ne pensaient pas à ça, hein, du tout. Et ça fait partie de la plus-value de Christian Duguay. Par contre, c'est vrai qu'entre ce désir d'en offrir plus que le budget ne lui permet de proposer, voilà, je me suis lancé dans une phrase infernale. Et là, j'ai eu très peur. Hein. Je me suis dit, mais dans quoi ? Qu'est-ce que va devenir ma phrase ? C'était terrible. Oui, je suis retombé sur mes pattes quand même.
Bah ouais, en précisant, tu analyses ta propre phrase.
En le disant, ouais, putain.
Donc tu voulais dire quoi exactement ? Parce que là, en fait, t'as complètement annulé la phrase.
Non, mais alors d'une part, c'est vrai qu'il y a un truc, il y a deux trucs en fait chez Duguay. C'est qu'il y a effectivement le fait que le mec n'a pas les moyens de ses ambitions, ce qui est une phrase plus simple et plus intelligible, je pense. Et il y a ce côté un peu brut, c'est-à-dire ce truc où l'énergie, je pense, chez Duguay, le nombre de plans, l'énergie et tout, prime sur tout le reste. Et du coup, bah, j'ai envie de dire, c'est du cinéma qui se douche pas tous les jours, quoi. Enfin, ils sont un peu sous les bras. Il y a un truc un peu cracra, quoi, dans son cinéma, mais qu'il faut surmonter parce que voilà, c'est pas du Fincher, quoi.
Après, là, on a choisi de parler de L'Art de la guerre parce que c'est spécifiquement vraiment un film d'action. Et,
clairement, ça, c'est
voilà,
totalement...
Et on a fait une grosse intro sur Duguay pour expliquer qui est le bonhomme parce que ça vaut peut-être effectivement le coup de resituer en fait qui c'est pour parler du film. Parce que voilà, je pense que dans les mains d'un autre cinéaste, ça serait clairement un film dont on se foutrait complètement.
Complètement, c'est clair.
J'en veux pour preuve que c'est le scénariste de Meurtre à la Maison Blanche, un autre film avec Wesley Snipes, et Meurtre à la Maison Blanche qui est réalisé par Dwight Little, qui est, bon, ma foi, un cinéaste, assez sympathique. Hein. Moi, j'aime bien Désigné pour mourir et Rabbit Fire, ce sont des films sympas. Mais bon, c'est un faiseur, on va dire. Alors que la distinction, peut-être, avec Christian Duguay, c'est que c'est un shooter. Donc clairement, c'est quelqu'un qui, tu lui donnes un script, il le shoot, il va pas vraiment le repenser, le réclamer. Par contre, il va lire entre les lignes du scénario et apporter une vision qui va fonctionner pour certaines séquences, en tout cas. Peut-être pas dans l'ensemble, et c'est un peu le problème, je trouve, de L'Art de la guerre. Mais sur des points, par contre, on va dire une série de 6, 7, 8 grosses séquences... en fait, il va affirmer son point de vue et sa personnalité.
Complètement. Ouais.
Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et voilà. Sur ce film-là, alors, on résume peut-être vite fait l'histoire. C'est un agent spécial des Nations Unies,
secret
des Nations Unies, en fait, qui agit en fait pour faire basculer les négociations en général d'un pays à l'autre, en fait, dans les négociations que peuvent avoir les Nations Unies quand il s'agit de faire des traités économiques, ce genre de choses, etc. etc. Donc c'est un espèce de James Bond-like voilà, qui se retrouve en fait piégé dans un assassinat. Et en fait, il est accusé à tort.
À tort, voilà.
Voilà. Et donc, en fait, c'est une course-poursuite et il veut démontrer qu'il est innocent.
Donc c'est un pitch assez bateau et lui, en fait, Duguay l'avait accepté notamment parce que lui voyait, alors ça fait un peu rigoler quand tu vois le résultat final, mais lui, sa référence c'était 3 jours du Condor, il voulait faire ça en fait initialement. Et puis je pense qu'il y avait aussi un truc complètement évident en fait quand tu vois ça, c'était une volonté de faire un truc à la James Bond, enfin dès la séquence d'ouverture, c'est sûr.
Et pour lui,
d'ailleurs, ça fait un parti truc qu'on mal vieillit, hein, les gadgets de l'art de la guerre, ils sont un peu vénères aujourd'hui, quoi. Mais...
Oui, mais en fait, le truc, bon, après, t'en as très peu. Hein, finalement, pour le coup, le terme étrange en fait quand tu regardes le film, parce que ça se voudrait, je pense, un James Bond plus réaliste qu'un James Bond tel qu'on l'entend, évidemment. Parce que je pense que la plupart des gens, quand tu regardes James Bond, ils pensent à Roger Moore ou à ce genre de choses, quoi. Et en fait, ça, c'est pas ça, hein, le film. Mais par contre, le truc, c'est que je pense que c'était sa volonté à lui, et c'était la volonté aussi de Wesley Snipes de faire un James Bond like. Voilà, je pense que Snipes voulait s'inscrire aussi à ce moment-là. Alors, pour repréciser, c'est pour ça que je pense aussi que c'était un gros budget quand même, en tout cas pour Duguay. C'est que Snipes venait de sortir du carton de Blade. C'est une prod à lui. C'est lui qui produit le film, hein, L'Art de la Guerre. Et voilà.
C'est un des problèmes que Duguay a eu sur le tournage, d'ailleurs.
Oui, hein. Oui, oui. Bah...
C'est-à-dire que là, on parle de l'époque aujourd'hui bien révolue, quoi. Ça semble bizarre de dire ça, mais Wesley Snipes était quand même hyper puissant, quoi. Apparemment, il y a eu notamment des tensions avec Jeff Ward. Si un jour vous faites un story sur. Sur Wesley Snipes, il faudra parler de Jeff Ward, qui est donc son.
On a déjà fait un story sur Wesley Snipes.
Ah oui, c'est vrai, ouais, avec Blade 2, ouais. Mais c'est plus sur Del Toro. Enfin bref, ouais, on va pas débattre de ça aujourd'hui. Mais Jeff Ward, qui était le mec qui le doublait, en fait, mais qui était aussi son chorégraphe de combat, qui était aussi souvent réalisateur de seconde équipe sur les films de Wesley Snipes, et avec qui. Alors, c'est bizarre, c'est un personnage curieux, Jeff Ward, parce qu'on n'a pas trop d'infos sur lui. Il donne des petites quand il donne des interviews, elles sont très promo, moi, je trouve, en général. Mais tu sens que c'est un mec, c'est un des facteurs de chaos sur les tournages de Snipes à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est avec lui que Donnie Yen s'était foutu sur la gueule sur le tournage de Blade 2. Et je crois aussi que Del Toro, ça s'était pas très bien passé avec Jeff Ward. Apparemment, il y avait encore eu des tensions là-dessus autour de ce triptyque Wesley Snipes, Jeff Ward, Christian Duguay sur L'Art de la Guerre. Donc Duguay, et je crois que Duguay, il est pas très très content en fait de ce film là en fait. Je crois que c'est un film qu'il a pas.
Après, il y a peut-être plusieurs raisons là-dedans. C'est-à-dire que en fait, le truc c'est que c'est un film qui s'est planté aussi. Ça, ouais, faut le préciser. Hein. Y avait une attente autour du film, mine de rien, quand c'est sorti. En tout cas, pour les studios qui l'ont produit, hein, y avait la Fox notamment dessus et Warner qui l'a récupéré aux États-Unis en tout cas. Donc oui, et puis c'était Wesley Snipes, c'est-à-dire que c'était une star de l'action. Voilà. Maintenant, le gros distinguo, et là, je pense que c'est là où c'est aussi important de le préciser, c'est qu'en dehors des Blade, on va dire, où c'est clairement en fait des films sur lesquels il a pu démontrer ses capacités à la fois en tant qu'action hero, en tant que
bon comédien,
ouais. Voilà, parce que c'est faut quand même aussi préciser ça. Snipes, c'est
un super comédien.
Et finalement, dans le cinéma d'action, on n'a pas tant que ça. Et surtout, en fait, un film qui tient à peu près la route, parce que la problématique de Wesley Snipes à cette époque-là, c'est que il s'est fait un nom sur des gros films d'action qui étaient Passager 57, Drop Zone, ce genre de films en fait, qui sont quand même pas des super bons films, quoi, et en fait qui tiennent encore vraiment pas la route aujourd'hui. Quand tu les revois, ça ressemble vraiment à des produits des années 90. Ce qu'on peut pas enlever à L'Art de la Guerre, voilà, c'est que en fait t'as des vraies scènes d'action.
Et t'en as un paquet en plus.
Voilà,
hein. Ça arrête pas.
Qui fonctionne vraiment bien, même si c'est dans un scénar de cousu de fil blanc. Bon, on va un petit peu spoiler, mais c'est vraiment pas un spoil, parce que je pense que si t'as vu deux films et demi, tu le calcules en deux secondes. Mais quand tu sais que le personnage de Michael Biehn, en gros, disparaît au début du film, alors que c'est censé être son pote, et vu la façon dont il est présenté, tu sais très bien que c'est le mec qui lui court après dans le reste du film. C'est pas un... enfin, et ça met quand même une heure et demie à arriver. Donc quand Snipes se retrouve avec la révélation du truc, tu te dis, mais c'est bon, on l'avait vu arriver. C'est ce genre de truc en fait que Duguay, mine de rien, en fait finalement tu t'en fous. C'est-à-dire que il a réussi à dépasser ce cadre, ces problématiques en fait de scénar où les mecs pensent qu'ils sont plus malins que le spectateur alors que pas du tout, quoi.
L'intérêt est ailleurs en fait. C'est-à-dire que très souvent comme tu le disais tout à l'heure, il y a une scène d'action, un petit concept, une petite idée derrière, un petit truc qui va changer, qui va te dire ah mais putain, le mec il a réfléchi à ça, puis surtout il a de l'idée, puis il a de l'envie. Il y a plein de petits trucs en fait là-dedans, et il y a cette générosité aussi dont on parlait, et ce côté aussi un peu crade. C'est-à-dire que le film, moi c'est ça aussi que j'aime bien chez Duguay, c'est que là où souvent des caméras auraient plutôt tendance à se détourner, tu vois, à être un petit peu sur la retenue, bah lui il y va plein pot, il te filme plein pot le truc, quoi. Notamment sur le cargo des immigrés clandestins au début, quand les mecs se prennent une balle dans la tête, bah Duguay il fait un gros plan sur la balle dans la tête, il en a rien à faire de ça.
Et
quoi.
En plus avec des personnages féminins, avec des voilà, mais ce qui est en fait finalement, bah, c'est pas De Palma non plus on va dire,
c'est que
ça a un mérite en fait là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux, ce truc en fait, la façon dont traiter les immigrés asiatiques ou ce genre de choses, au moins il a le mérite de vraiment mettre une lumière dessus. C'est-à-dire que c'est ce que tu peux pas enlever aussi au film, quoi. C'est-à-dire que, en gros, il le traite de manière frontale. Et c'est un peu le truc en fait finalement qui je trouve très intéressant, parce que là on va peut-être un peu rentrer dans son fonctionnement de mise en scène. T'as parlé un peu des plans séquences, ce genre de choses, mais c'est quelqu'un en fait qui qui a une croyance en fait dans le cinéma. C'est-à-dire que il a beau être, comment dire, effectivement aller à l'instinct, il a beau filmer, et moi je trouve en fait, voilà, de façon assez virtuose hein, finalement, comme encore une fois, peu de cinéastes du cinéma d'action peuvent se targuer de l'avoir fait, quoi. Avec après sa carrière d'après, il y a pas mal de films à problème. Hein,
ça reste un mercenaire et il s'est perdu un peu là-dedans. Quoi, voilà. C'est sûr.
Mais dans, enfin, ce film-là, dans ce film-là, il y a encore quelques idées qui le poussent vraiment à un truc un peu terminal. Il y a cette scène, par exemple, qui est une pure scène de cinéma, c'est-à-dire elle ne peut pas fonctionner sur le papier. C'est-à-dire sur le papier.
Tu parles de la scène des miroirs.
Voilà, si tu réfléchis à cette scène en fait, sur
belle,
le papier,
hein.
elle est ridicule en fait. C'est le type qui l'a écrit, tu te dis ça peut pas marcher. Mais parce que Snipes comprend une chose en se posant des questions, tu vois. Et du coup en fait le Duguay utilise en fait la séquence des miroirs. En fait il va voir une de ses
collègues
qui vient de se faire tabasser. Et en fait il la voit en train de se faire tuer.
Elle se fait tabasser en étant avec son crâne qui est fracassé en fait contre une série de miroirs,
voilà.
Contre un mur en fait, un peu comme dans les salles de danse en fait, un mur rempli en fait de, enfin parsemé, tapissé de miroirs.
Voilà. Et le truc en fait qui se passe, c'est que donc il la voit se faire tuer juste devant lui. Il se débarrasse en fait du tueur, mais il est venu récupérer une information en fait, une petite micro carte, un truc comme ça. Sauf que il le sait pas à ce moment-là en fait qu'il est venu récupérer ça. Donc en fait il la voit. Il y a toute une scène, j'ai envie de dire d'intensité émotionnelle, on va dire, même si encore une fois c'est pas un personnage sur lequel on va s'apitoyer forcément.
Non, mais ça marche en fait
dans
cette séquence.
Et en fait du coup il repense la séquence à laquelle il n'a pas assisté. C'est-à-dire il revoit la scène de torture de la fille, la scène de tabassage, et c'est là en fait qu'il récupère, en fait c'est là qu'il comprend comment récupérer l'information qu'il est venu chercher. Sur le papier ça n'a aucun sens, mais par contre en fait la façon dont il va jouer avec la séquence, c'est justement une manière de te montrer que le personnage non seulement réfléchit, ce qui est quand même encore une fois assez rare dans le cinéma d'action en fait, de montrer un personnage d'action qui réfléchit
et qui réfléchit dans une espèce d'action. C'est ça qui est génial, voilà. Aussi c'est que c'est dans le mouvement et tout, il n'y a pas un seul dialogue et
avec
tout,
un hein. regard entre les lignes, avec ce que le spectateur sait. C'est-à-dire qu'en fait du coup il y a une connivence entre ce que le personnage ne sait pas, ce que le spectateur sait, et finalement pour faire passer la chose. Et du coup c'est une vraie séquence de cinéma dans le sens où en fait en gros elle ne peut passer que par le langage du cinéma.
Totalement. Il y a une autre scène moi qui me fait penser, ça m'a fait penser à une autre scène aussi, qui est la scène de poursuite à pied,
ouais.
Qui était un peu un
ah bah à l'époque
un classique post, après Seven,
post
voilà.
Seven, voilà, personne et... n'a, et d'ailleurs même si la scène est super, ce n'est pas Seven évidemment.
Non, c'est... alors déjà c'est pas Seven, puis tu sens qu'il y a encore là, il y a l'influence de Seven, les scènes à pied sous la flotte urbaine, voilà, quoi, je vous fais pas un dessin. Sauf que le truc de l'art de la guerre qui est hyper intéressant, c'est qu'elle revient deux fois en fait cette scène, et que la deuxième fois elle revient avec l'écho visuel
avec les deux mêmes personnages.
Les deux mêmes personnages, et la deuxième fois elle revient avec un écho de la première scène en fait. Et c'est pareil, le personnage de Wesley Snipes réfléchit dans l'action en fait en faisant ce truc là. Et c'est en plus une scène où ça va de soi, vous l'aurez compris de vous-même, mais il y a beaucoup de steadicam en plus dedans, donc il y a vraiment pour le coup la patte de Duguay en fait qui est complètement là, quoi. Et elle est chouette cette scène, elle est vraiment à fond, même là encore. Elle fonctionne vraiment, vraiment très, très bien.
Il y a plein de petits trucs comme ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va insister peut-être sur ce point, c'est un cinéaste de série B. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... il va prendre à droite à gauche
Il n'y a pas d'éthique, grande éthique, en fait.
Mais ce que j'entends aussi par là, c'est qu'en fait, il va prendre des choses à droite à gauche qui sont des... limite de la logique. Alors c'est un peu difficile de préciser ça dans un gros budget, mais du cinéma d'exploitation, c'est-à-dire que par exemple il y a des petits effets sous Matrix en fait,
à la fin,
il trouve toujours un truc pour les rendre cool. C'est-à-dire que par exemple en fait tout bêtement, moi en revoyant le film, on l'a revu là pour enregistrer cet épisode, en revoyant le film en fait j'aime bien ce truc où d'un seul coup les mecs se retrouvent en face à face, un truc à la John Woo, tu vois, où ils sont dos à dos comme ça.
Et en fait, tout simplement,
ils arrivent, en chorégraphie, ils n'arrivent pas à savoir en fait, parce qu'ils sont vraiment dos à dos comme ça, et en fait, ils repartent dans le mouvement. Et mine de rien, c'est aussi ça le cinéma d'action, c'est-à-dire, c'est à un moment donné, en fait, le mouvement des personnages, c'est aussi ce que tu as envie de voir, tu vois. Et des fois, juste un coup de latte bien cadré, c'est hyper excitant, quoi.
Ça,
et c'est ce que
surtout
lui fait,
des personnages qui se réalisent dans leur mouvement, quoi. C'est ça le truc aussi qui te raconte, le mouvement et leur positionnement l'un à l'autre raconte quelque chose. Ça a l'air bête, hein, mais c'est vrai que du coup, cette relation qui est hyper basique entre ces deux personnages-là et tout, mais oui, n'empêche, oui, elle est nourrie par ça. C'est-à-dire que quand tu vois cette scène justement de flottement dans ce duel final, et puis aussi, mine de rien, la scénographie de la scène, c'est-à-dire la façon qu'ils sont, les deux gars en fait sont coincés dans un couloir. Donc c'est vachement bien parce que d'une part, tu comprends la topographie, elle est hyper.
Mais ça, c'est toujours
simple.
Le cas avec, avec Duguay, pour le coup, Duguay, je trouve. À part les films d'après, peut-être des extrémistes ou ce genre de choses, c'était carrément le bordel. Problème.
On va peut-être en parler un tout petit peu, on terminera peut-être vite fait là-dessus. Non, ouais,
terminer sur les extrémistes, ça serait quand même moche
dommage,
pour
enfin,
Christian Duguay.
Non, mais il faut dire quand même ce qu'il est devenu, quand même, le mec. Enfin bon, bref, peu importe. Mais je finis là-dessus. Donc, tu as une scénographie qui est hyper simple et qui nourrit en fait, le truc, si tu veux. Même dans la finalité, en fait, de ce duel-là. Alors, je ne vais pas le révéler aux gens, mais où ça se termine. Pourquoi ça se termine à ce moment-là et qu'est-ce que ça dit de la révélation qu'il va y avoir, de la façon dont on s'expose au monde ? Mine de rien, ça fait sens. Mmh. Aussi con soit le scénario, aussi basique soient les personnages, le mec arrive à transmettre ça par cette action-là. Bah, pour moi, ça, c'est un réalisateur d'action hyper respectable. Il remplit plus que la part de son contrat, quoi.
Voilà, alors pour résumer donc un peu sur l'art de la guerre, faut quand même préciser qu'il faut pas s'attendre non plus encore.
C'est pas un chef-d'œuvre.
Plus forte raison aujourd'hui parce qu'en fait il y a vraiment des tropes de ces genres-là en fait qui ressortent de façon beaucoup trop évidente aujourd'hui dans le scénario, ce qui était peut-être moins le cas à l'époque dans les années.
Puis
2000,
le film a vieilli techniquement, il y a plein de trucs qu'on vit, il y a des incrustations. Dégueulasse, qui passait déjà mal à l'époque. Mais alors là,
oui,
c'est
oui.
Pire. Bon,
tu penses à quoi ? Tu penses le plan de la nana avec les Nations Unies
Non, ça, ressort, ça va encore. Non, je pense au début là, surtout là, le truc sur le toit et tout. Il y a des moments là. C'est vénère.
Oui, mais les idées de plans sont tellement chouettes.
Sympas,
et puis en fait, tu les vois plus. Même aujourd'hui, tu vois plus ce genre de plan. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est qu'ils sont pas pensés de cette manière-là, en fait. Donc du coup. Quelque part, ils retiennent une certaine. Encore une fois, c'est vraiment très spécifique à lui, ce genre de choses.
Ouais, complètement.
Donc, c'est ça qui est intéressant. Et, mais bon, alors, c'est vraiment une série B. Mmh. Je pense que ça intéressera surtout les gens qui aiment. Plus que le fait qu'on leur raconte une histoire, ils aiment comment on va leur raconter l'histoire.
C'est ça.
C'est ça le truc.
Voilà.
Quoi. Et je sais que nous, c'est ce qui nous a un petit peu émoustillé à l'époque et ça fonctionne encore aujourd'hui, je trouve.
Complètement, ouais. Et moi, c'est un mec qui me manque un peu, hein, Christian Duguay, juste pour terminer là-dessus, parce qu'on a planté un peu le début. Je pense quand même que c'est... Il faut dire ce qu'il est devenu après. Après, il a fait beaucoup de téléfilms et tout. Il s'épanouissait un peu plus là-dedans.
Ah, il a fait un Jeanne d'Arc avec Lili Sobieski.
Voilà,
il a fait un Hitler avec Robert Carlyle.
Exactement.
Et c'est probablement des trucs en fait que les spectateurs ont pu voir sur TF1 parce que c'est des films qui ont été récupérés à cette époque-là.
Et avec tous les impératifs connus de ça, donc c'est forcément beaucoup moins satisfaisant.
Il a tourné en France aussi.
Et il y a eu cette aventure de vie extrémiste qui est un film tragique en fait dans sa carrière parce que c'est un film qui lui est. Lui, c'était un peu le film de sa carrière. C'est-à-dire que c'était un film qui réunissait à la fois le cinéma et donc les sports de l'extrême. Il s'était beaucoup investi en fait en pré-production et il y a le producteur allemand, je crois, qui avait porté en fait le film à bout de bras, qui est mort tragiquement en fait à quelques jours du début du tournage. Le film a été repris, alors si ce n'est par le studio, en tout cas par les compagnies d'assurance, je sais plus un des deux. Il a été réécrit en permanence pendant le tournage. Duguay était lui-même complètement, je crois, déprimé en fait par la perte de son ami. C'est un ami proche, hein, ce producteur pour lui. Et du coup, ce qui était un peu son projet chéri, quand aussi permis de le porter un peu plus sur le devant de la scène. C'était un peu sa seconde chance après l'art de la guerre. C'est révélé être une catastrophe totale. Ça a très, très mal fonctionné.
Et ça, le film n'est pas bon. Hein,
le film est une catastrophe, hein, d'ailleurs. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que aujourd'hui, le mec se retrouve à faire, je crois qu'il a fait un Belle et Sébastien, il a fait un Sac de billes, il a fait des trucs comme ça en France. Japou,
un film avec, Guillaume Canet.
Voilà, Japou qui a un truc sur les chevaux et tout. Et c'est dommage, moi, quand je l'avais rencontré pour terminer avec ça, comme j'ai ouvert là-dessus, le gars avait des rêves de grandeur. Il voulait faire un truc à la Seigneur des Anneaux. Je me souviens à l'époque, il y avait Dick Ferrand, qui est un Suisse qui fait des très beaux matte painting, qui faisait beaucoup de peintures conceptuelles. Crash McCrary avait fait des peintures conceptuelles dessus. Et moi, j'avais vu la bande démo en fait pour son film, qui était surréaliste parce que tu le voyais sur le tournage. Et je terminerai sur cette image parce que je trouve qu'elle est édifiante en fait sur le personnage où tu le voyais sur le toit. Je crois Jeanne d'Arc. Et le mec était sur un cheval au galop en train de faire du steadicam. Quand tu vois ça, franchement, le personnage, il est attachant. Quoi. Je ne sais pas si vous êtes monté sur un cheval au galop. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de porter un harnais steadicam. Mais c'est terrible. Enfin, je ne sais même pas comment.
Alors, les deux en même temps.
On peut faire ça. Et moi, j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est un mec que j'aime bien.
Bah, c'est un mec qu'on aime bien, de toute façon, voilà. Dans l'absolu. Quoi. Bah, merci, Julien.
Merci, Stéphane.
Merci à vous
Alain.
Tous. Merci, Alain, à la technique.
Merci,
Alain, merci. Alain, merci. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux habituels, hein, comme je le dis à chaque fois, Instagram, Facebook, Twitter. Et puis, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur SoundCloud, sur notre site, capturemag.net. Et moi, je vous dis à la prochaine fois.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.